Oui, bien bonjour, bon matin tout le monde. Nous sommes vendredi le 20 juillet 2018. Voici l'émission Les Voix de service, magazine d'Hélène Bédard au micro. Et je suis accompagnée de mes fidèles collaboratrices. À ma droite, j'ai Catherine et Emmanuel Brunet. Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et à ma gauche, j'ai Madame Francine Forget.
Bonjour, Hélène.
Merci. Et voilà, j'ai aussi Maurice qui est à la régie. Bonjour, Maurice.
Oui, salut.
Et voilà, ce matin, nous allons donc vous parler de quelques sujets, nos sujets chouchous. Je vais commencer par Catherine.
Oui, je vais parler un peu de les stratégies pour réduire la souffrance au travail. C'est un article toujours dans le nouveau projet. Je vais vous parler aussi d'un procureur pour les animaux en Suisse.
Tiens donc!
Voilà! Ça sera les sujets du jour.
Oui, fort intéressant et plutôt en pleine curiosité. Francine, à votre tour.
Dans un premier temps, moi, je vous amène dans l'espace. Alors, Mars qui va se donner en spectacle pendant tout l'été. On va aussi lire une opinion sur l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on en a lu, là. Bon, souvent, c'est un peu de la redite, mais de temps à autre, ça fait du bien de revenir là-dessus. Et si jamais on a le temps, j'ai entrepris la semaine dernière un dossier dans Québec Science. C'est « Les mystères qui narguent la science ».
Fort intéressant, encore une fois. Mon Dieu, je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir à cela. Et moi, de mon côté, je vais vous parler de... Je vais vous faire l'éloge de la fatigue. Ainsi que je vais vous parler de... On doit faire une place aux super vieux. Je vous en reparle tantôt, dans un petit moment. Restez avec nous. Nous voici de retour et Francine Forget va nous, peut-être nous faire envoler dans l'espace. Je
sais. Oui.
Tout à fait.
L'espace vu de la Terre, je dirais. C'est un article qui est paru le 14 juillet dans la section Actualité de la Presse Plus, signé par Philippe Mercure. Mars se donne en spectacle tout l'été. L'International des feux l'Auto-Québec n'a qu'à bien se tenir. La planète Mars brille de tous ses feux cet été. Un spectacle qui culminera le 31 juillet prochain, alors qu'elle sera plus près de la Terre qu'elle ne l'a jamais été en 15 ans. Cette rare occasion est cependant assombrie par deux phénomènes chez nous. Mars apparaît très bas dans le ciel et sur la planète rouge, une tempête colossale sévit depuis plusieurs semaines en masquant la surface. Mars est la voisine immédiate de la Terre, mais comme les deux planètes tournent autour du ciel sur des orbites différentes, il arrive que la petite planète rouge se trouve très loin de nous, complètement de l'autre côté du Soleil. Pensez à des coureurs dans un stade. Mars est dans le couloir extérieur et met plus de temps à faire son tour de piste. La Terre, dans le couloir intérieur, va plus vite. Elle est actuellement en train de rattraper Mars pour passer devant. Les deux planètes s'approchent donc l'une de l'autre et Mars apparaît déjà grosse et brillante dans le ciel vu sa proximité. Mars se voit très bien actuellement, même en ville, dit Marc Jobin, astronome au planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. C'est l'astre le plus brillant du ciel. La teinte est aussi assez remarquable, très pastel comme couleur. On voit un blanc très chaud, genre saumon orangé ou pêche. Le 27 juillet, la Terre passera exactement entre le Soleil et Mars, un phénomène qu'on appelle opposition. Par un phénomène géométrique dû au fait que les orbites de Mars et de la Terre ne sont pas circulaires et ne sont pas sur le même plan, Mars continuera de s'approcher encore un peu de la Terre, même quand les planètes ne seront plus parfaitement alignées. Résultat, dans la nuit du 30 au 31 juillet, Mars ne sera plus qu'à, c'est une façon de dire, 57,6 millions de kilomètres de la Terre, un record depuis 2003. Elle paraîtra alors de 33 à 50 fois plus brillante que d'habitude. C'est un build-up jusqu'à la fin de juillet, mais la planète rouge est déjà près de son éclat maximum et va rester extrêmement brillante jusqu'au début de septembre, dit Marc Jobin. Pour observer Mars du Québec, un mot d'ordre. Regardez plein sud. La planète ne monte pas très haut dans le ciel, ce qui complique la vie des astronomes amateurs pour deux raisons. D'abord, il faut avoir un horizon dégagé pour l'apercevoir. Ensuite, la lumière de Mars traverse une épaisseur d'atmosphère plus importante avant de nous parvenir, ce qui peut troubler l'image qu'on en a. Quand on regarde dans un télescope, la turbulence atmosphérique fait bouger les images et on peine à avoir des moments où ça devient net, déplore Marc Jobin. Il faut aussi se coucher tard pour bien voir Mars. De Montréal, Mars culmine actuellement dans le ciel à 2 heures du matin. Ce sera vers 1 heure du matin lors de l'opposition à la fin juillet. Notons que les conditions sont beaucoup plus propices dans l'hémisphère sud où Mars est au zénith. Autre élément frustrant, une énorme tempête souffle actuellement sur Mars et elle a tellement pris d'ampleur qu'elle a pratiquement gagné la planète au complet. Les vents ont soulevé une telle quantité de poussière qu'on ne voit plus la surface du sol. En observation visuelle, il est devenu extrêmement difficile de distinguer les zones sombres des zones claires à la surface de Mars. « C'est uniformément orange », dit Marc Jobin. Le robot Opportunity de la NASA fait d'ailleurs les frais de cette tempête. Incapable de s'alimenter en énergie solaire à cause des poussières qui voilent le soleil, Opportunity ne répond plus depuis un mois. Si Mars offre un spectacle intéressant ces temps-ci, méfiez-vous des rumeurs qui circulent sur l'Internet et qui affirment que la planète rouge sera aussi grosse que la pleine lune. C'est faux. Ce canular date de 2003, alors que Mars était aussi en opposition. Un message tout ce qu'il y a de plus sérieux et véridique avait alors avisé les curieux que dès le 27 août 2003, Mars apparaîtrait de la même taille que la Lune lorsqu'observé au télescope sous un grossissement de 75 fois. Le hic, c'est que le téléphone arabe a fait son œuvre. L'information a été reprise sans mentionner le grossissement et l'année a disparu du message initial. Résultat, tous les 27 août depuis 15 ans, la même fausse rumeur voulant que Mars soit aussi grosse que la Lune ressurgit invariablement. « Je suis sûr qu'on va la voir et apparaître cette année, ce fameux canular de Mars », lance Marc Jobin en soupirant. Alors un texte de Michel Mercure, « Mars se donne en spectacle tout l'été », la Presse Plus du 14 juillet.
Quel sujet intéressant. Alors, on se donne rendez-vous dans la nuit du 30 au 31 juillet, Francine.
C'est bien ça.
Ah, c'est sûr, je l'ai noté. Je vais voir ça. Voilà, nous sommes de retour. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'un texte écrit par Martine Rioux, paru dans l'actualité. Place aux super vieux. Ils travaillent bien au-delà de 65 ans, obtiennent des diplômes, courent des marathons pour essouffler des gens deux fois moins âgés qu'eux. De nombreux super-aînés bousculent les clichés de la vie, passé 85 ans. À Saint-Luc, une ville de 34 500 habitants, enclavée dans l'ouest de Montréal, nous l'appelons le royaume des aînés. Le nombre des personnes âgées de 85 ans et plus y est au moins trois fois supérieur à la moyenne canadienne. Notre territoire représente la nouvelle réalité du vieillissement. Des personnes très âgées, autonomes, qui habitent chez elles le plus longtemps possible. La proportion de personnes de plus de 80 ans qui vivent en foyer ne dépasse d'ailleurs pas 7 %. Cela n'a rien de surprenant, car depuis les années 70, l'espérance de vie s'allonge de 2 à 3 ans à chaque 10 ans. Un centenaire sur deux est d'ailleurs en bonne santé physique et mentale. C'est la nouvelle réalité. Nous vivons dans une société qui compte de plus en plus de personnes très âgées et en très bonne santé. Certains ont boudé la retraite à 65 ans, non par nécessité, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé de s'investir dans une activité professionnelle qui les rend heureux. Prenez Jacques Diamond, ou Diamond, un chiropraticien de 97 ans de Trois-Rivières qui vient tout juste de prendre sa retraite. Enjoué et volubile, il s'assombrit un brin lorsqu'il raconte avoir dû cesser ses activités parce que ses jambes, à 97 ans, ne lui permettaient plus de rester debout plus de 30 minutes. « J'ai trouvé difficile d'arrêter, dit-il, car mon travail me faisait me sentir utile. Mais je suis un optimiste de naissance. J'aime ça encore tout feu, tout flamme. Il habite sa maison avec sa femme de 67 ans, conduit toujours et passe désormais l'essentiel de son temps à lire sans lunettes, précise-t-il. » À ce jour, un constat s'impose. Il ne suffit pas d'hériter de bons gènes pour vivre et en bonne santé. Pour vivre vieux, pardon, et en bonne santé, même si ça joue bien sûr un rôle dans l'équation. Mais tout ce qui nous a façonnés depuis la petite enfance a un effet sur le bien vieillir. Environ 30 % des personnes qui vivent jusqu'à un âge très avancé possèdent des gènes de protection contre les maladies chroniques. Mais, gènes ou pas, chacun peut accroître son espérance de vie en mangeant sainement, sans excès, en bougeant régulièrement. Limiter le sel, le sucre, les graisses et pratiquer régulièrement une activité cardiovasculaire légère permet de voir rapidement des bénéfices. Nul besoin de courir des marathons. La pratique régulière d'une activité physique modérée comme la marche suffit amplement. Il n'y a pas une pilule qui a autant d'effets. Les bienfaits se font sentir physiquement, mentalement et même sur le plan de la participation sociale, car l'isolement est l'un des pires ennemis des aînés. Le taux de mortalité de ceux qui ont peu de contact avec autrui est de 25 à 50 plus élevé que celui des gens socialement actifs. La participation sociale permet d'éviter des problèmes de santé importants comme les maladies cardiovasculaires, la dépression, l'anxiété ou les troubles du sommeil. Le laboratoire de la ville de Côte-Saint-Luc semble lui donner raison. La chercheuse Norma Gilbert remarque que dans cette ville où 60 % de la population est de confession religieuse juive, selon les données de la ville de Montréal, le sentiment d'appartenance à la communauté est donc particulièrement développé. Certains même ont connu l'Holocauste, dit-elle. L'aspect communautaire étant très fort ici, les gens font du bénévolat, s'entraident et sont engagés. C'est un des éléments qui explique que cette communauté est autant de personnes âgées de 85 ans et plus. La résilience est un style de vie basé sur les valeurs optimistes, contribue également à la longévité. Les centenaires sont souvent des gens déterminés qui vivent dans le moment présent, ont une foule de projets et manquent aussi souvent de temps. Bien vieillir, ça se passe donc entre les deux oreilles? Peut-être bien, c'est la moitié de l'équation. Loin des clichés habituels, certaines personnes très âgées conservent ou continuent de développer leur faculté cognitive. Car si le cerveau perd un peu de masse avec l'âge, il conserve toutefois ses neurones, même que le jugement se raffine, tandis que le vocabulaire et les connaissances continuent de s'accroître. Parmi les découvertes majeures récentes, on se rend compte que le cerveau demeure plastique tout au long de notre existence et qu'il y a beaucoup de processus de réparation, de réserve, de compensation qui font qu'on peut résister au processus du vieillissement et des maladies liées à l'âge. L'image de déchéance des personnes très âgées, souvent perçue comme un poids social, ça c'est du passé, disent tous les chercheurs interviewés. Il faut complètement revoir notre vision du vieillissement. Des compliments qui n'en sont pas, comme, par exemple, « Vous avez l'air en forme pour votre âge », n'ont plus la raison d'être, car ça sous-entend, c'est qu'on s'attend à ce qu'une personne de 85 ans soit détériorée. La science du vieillissement est jeune et n'a pas encore livré tous les secrets de la longévité. L'être humain n'a probablement pas repoussé au maximum sa limite de vie. À ce jour, le record de la longévité est toutefois toujours détenu par une Française du nom de Jeanne Calment, morte en 97 à plus de 122 ans. Chose certaine, le contexte du vieillissement a beaucoup changé depuis les années 70, même si la télévision continue de nous renvoyer les images de mouroirs comme sont les CHSLD, il va changer encore. Qui donc? Les baby-boomers vont contribuer à la révolution du vieillissement. Ils n'accepteront certainement pas d'être relégués à un rôle de petit vieux sans intérêt. La preuve en est, et je vais terminer avec cet exemple, Yvette Drapeau, 81 ans, marathonienne. Les marathoniennes octogénaires, ça ne court pas les rues, sauf peut-être à Sainte-Foy, où cette dame parcourt été comme hiver un 10 km quotidien. Elle s'est mise à la course et à la marche rapide à 73 ans, à la suite d'un accident qui l'a incité à se départir de sa voiture. Je marchais déjà beaucoup, j'ai toujours été active, mais je suis incapable de rester à la maison à regarder la télé, raconte cette dynamique grand-maman. L'an dernier, à 80 ans, elle disputait son premier marathon. Si elle n'a pas remis ça cette année, c'est que son fils s'est fracturé une cheville et doit en prendre soin. Je ne sais pas en quoi je suis faite, mais je n'ai jamais mal nulle part. Je prends aucun médicament, ma pression est belle, alors je continue. et à force de la voir aller, certains voisins lui ont dit s'être mis à bouger davantage. Je sais que ça impressionne le monde, mais je fais ça parce que j'aime la vie. Dans ma tête, c'est comme si j'avais encore 50 ans. Un très beau texte, texte stimulant de Martine Rioux, paru dans l'actualité en mai dernier.
Famille, tu as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague à color. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Garde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent, pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Pierre Lapointe, sais-tu vraiment qui tu es?
Et voilà, nous sommes de retour en studio. Voici Catherine et Emmanuel Brunet vont nous entretenir.
Oui, c'est un article de Marie-Claude Élie Morin. C'est sur les 6 stratégies pour réduire la souffrance au travail. Un article du Nouveau Projet dans leur section Ouverture, le mode d'emploi. Surcharge, stress, burn-out. La souffrance au travail fait les manchettes régulièrement. Dans le domaine de la recherche universitaire, comme dans celui des innovations technologiques, de nouvelles voies s'élèvent pour tenter d'endiguer cette épidémie. Ambitieuses mais néanmoins concrètes, les solutions qu'elles proposent commencent toutes par une écoute attentive des employés. 60% des travailleurs considèrent que leur vie professionnelle a des répercussions négatives sur leur santé et leur vie personnelle. 69% rapportent du travail à la maison régulièrement. Près de la moitié se disent stressés au boulot, et près du quart craignent de perdre leur emploi dans les 3 à 6 prochains mois. Ces données choc proviennent de la firme montréalaise GSOFT, GSoft, créative de l'application Office Vibe. Cette Cette dernière fait partie d'une nouvelle génération d'outils qui permettent, notamment à travers des sondages hebdomadaires anonymes, de connaître en temps réel la satisfaction ou la souffrance des salariés d'une organisation. G-Soft a accepté de partager ses informations les plus marquantes parmi celles récoltées au quotidien auprès de milliers d'employés à travers le monde. Pour décortiquer ces données et formuler des pistes de solutions, Nouveau Projet a fait appel à plusieurs chercheurs universitaires spécialisés dans la question. Premier point, se mettre véritablement à l'écoute. L'écoute des salariés est primordiale. Les mécanismes de feedback anonyme de type Office Vibe ont l'avantage d'offrir l'occasion de s'exprimer sur ses souffrances sans craindre d'éventuelles représailles de la part d'un supérieur ou d'un collègue. Mais il faut aussi que les patrons prennent le risque d'interroger l'organisation et pas seulement l'individu, fait remarquer Martial Rousseau, doctorant en administration à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Il est souvent plus facile de proposer des séances de lâcher prise sur le stress occasionné par le travail, par exemple le yoga ou la méditation, et de renvoyer toute la responsabilité sur l'individu que de réfléchir sur le travail lui-même. Un objectif de qualité n'est pas atteint. Plutôt que de mettre la faute sur les employés, c'est peut-être l'objectif qu'il faut revoir. Point 2. Préférer la reconnaissance au cadeau. 63% des personnes interrogées par G-Soft ont rapporté ne pas recevoir suffisamment de reconnaissance de la part de leur entreprise. Nombre d'employeurs négligent cette rétribution immatérielle, car ils la confondent avec des cadeaux et autres bonnies. Pourtant, l'immense majorité des salariés préfèrent recevoir des commentaires encourageants plutôt qu'une récompense financière. La valorisation et la rétroaction doivent donc être fréquentes, chaque semaine et pas seulement lors de l'évaluation annuelle. Et il faut qu'elles soient personnalisées. Ce que tu as fait pour tel projet est vraiment bien, pour telle raison, par exemple. Ça a beaucoup plus de poids qu'un laconique beau travail, affirme Julie Genotte, experte, culture et engagement pour Office Vibe. Point 3. Bannir le concept d'efficience. Le vocabulaire utilisé au travail a un impact sur le vécu des employés, note Isabelle Hudon, doctorante en relations industrielles à l'Université Laval. Le mot « efficience », par exemple, est souvent employé pour combiner efficacité, qualité et coût peu élevé. Or, c'est une injonction paradoxale pour les travailleurs. On leur demande de prendre moins de temps et de ressources pour faire mieux, dit-elle. À l'origine, ce terme renvoie uniquement au coût de production et la profitabilité de l'entreprise. Mais livrer un travail de qualité suppose presque toujours de prendre plus de temps et de ressources, ce qui fait augmenter la facture. Le jargon de la gestion dissimule ce paradoxe, laisse l'employé anxieux et perplexe et empêche la discussion franche. Point 4. Donner droit à l'erreur. Malgré des décennies de recherches sur les effets pervers des modes de gestion autoritaires, ils sont encore la norme dans le monde du travail. On y fonctionne trop souvent selon une approche hiérarchique rigide et on ne mise pas assez sur un accompagnement respectueux. On demande aux employés de garantir des résultats sans leur donner ni le temps de prendre des décisions éclairées, ni le droit de se tromper. Or, les études démontrent que c'est en essayant de nouvelles choses et en faisant des erreurs que l'on développe ses compétences, sa créativité et de nouveaux modes de gestion. Dans une atmosphère de contrainte, il n'y a pas non plus de place pour l'expression des émotions ou des doutes. Sans accompagnement, beaucoup d'individus prennent l'entièreté des difficultés sur leurs épaules et s'épuisent. Point 5. Encourager l'autonomie. Dans ce qu'on appelle les petits métiers, souvent occupés par des femmes d'ailleurs, caissières, serveuses, préposées à l'entretien, vendeuses, la principale source de souffrance est liée au manque d'autonomie et de liberté dans l'organisation concrète de l'espace et de l'horaire de travail. Avoir la liberté d'ajouter un tabouret sur lequel s'appuyer un peu au lieu d'être debout plusieurs heures d'affilée ou connaître son emploi du temps à l'avance pour s'organiser sont des leviers très simples. Et pourtant, les employeurs hésitent encore à faire confiance à leurs salariés et à leur offrir plus d'autonomie, note Karen Messing, auteur du livre « Les souffrances invisibles » pour une science du travail à l'écoute des gens. Point 6 et dernier point. Mettre en place un véritable code éthique. Pour être heureux au travail, nous avons besoin de sentir que nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous. Beaucoup d'entreprises se disent éthiques, mais rares sont celles qui en appliquent les règles de conduite au quotidien. Les gestionnaires doivent prendre conscience des messages implicites que transmettent leurs actions pour éviter des discours contradictoires, note Isabelle Hudon. Un patron de journal qui prône le respect mais qui demande à ses journalistes de harceler une mère éplorée. Ou une entreprise manufacturière qui s'affiche comme verte tout en s'approvisionnant dans des usines étrangères polluantes place leurs employés dans une situation de conflit moral. La cohérence parfaite entre les valeurs personnelles et celles de l'entreprise est difficile à atteindre, mais si les dilemmes sont au moins nommés, un pas de plus est fait dans une véritable éthique au travail. Et c'est un article de Marie-Claude Élie Morin, qui est journaliste indépendante, chroniqueuse, et qui est auteure de l'essai « La dictature du bonheur » chez VLB Éditeur.
On dit que c'est intéressant, ça. Alors, nous allons poursuivre. Francine Forget, vous avez des petites nouvelles brèves à nous communiquer.
Bien, récemment, vous savez, je vous ai parlé d'entreprises à la conquête de l'espace. C'est une liste qui a été dressée par Thomas Laberge dans l'actualité de juillet 2018. Blue Origin, alors cette société là, qui est la propriété de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, veut aussi amener des plaisantiers en orbite. La fusée coiffée d'une capsule New Shepard a atteint l'espace lors d'un vol à 107 km d'altitude le 29 avril dernier. Blue Origin espère commencer à offrir ses croisières spatiales dans les prochains mois. Les prix n'ont toutefois pas encore été annoncés. Alors donc, on ne peut pas réserver, là. Il faut attendre.
Je ne mettrai pas ma réservation tout de suite.
C'est ça, attendez. Scientist. L'année 2019 marquera le 50e anniversaire de l'alunissage à la mission Apollo 11. Pour commémorer l'événement, la Société d'exploration spatiale souhaite retourner sur la Lune. Il s'agira du premier voyage lunaire privé. Alors voilà, une liste dans l'actualité.
Alors voilà, restez avec nous pour la suite de l'émission Les voies de service. On vous réserve d'autres surprises. L'émission se poursuit tout de suite après la pause. Merci.
Écoutez les voies de service.
Assis dans mon cachot, moi je me sens un petit peu pogné. Bien sortir, mais j'ai pas la clé. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'attends enfin le jour où je pourrai partir, mais si on m'ouvre la porte, moi je m'en vais déguerper. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'essaie de voir le ciel, mais le plancher est frais, pis rentre pas de soleil. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Je pense à mes amis qui font tout plein de conneries, mais ont jamais rien fait pour me sortir d'ici. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Thank you.
maison. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Le juge m'a vu, puis il était plus capable. Il m'a jeté au trou comme un vieux reste de table. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'en peux plus de la vie. Je me suis gossé une corde avec les drones, mon lit. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Et même si Dieu lui-même il veut me faire la peau, pas sur mon petit nuage, j'en aura pas de barreau. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues.
Les chercheurs d'or, le blues d'être tout seul en prison.
Merci, merci Maurice. Alors nous sommes de retour après cette pause musicale. Hélène Bédard au micro. Et puis moi je vais poursuivre avec un article que j'ai trouvé dans Le Devoir. Et ça s'intitule comme suit, L'éloge de la fatigue. Et ça fait une belle suite au texte de Catherine Emmanuel tout à l'heure à propos de la sociologie du travail. Alors, un texte de Isabelle Paris, paru le 6 juillet. Ça y est, c'est bientôt l'heure de l'école buissonnière pour des milieux de travailleurs. Le temps de mettre l'horloge à pause, d'arrêter la trotteuse une fois dans l'année. Pour plusieurs, la relâche estivale sera le seul vrai répit dans la boucle sans trêve du labeur quotidien, même si la fatigue s'est invitée comme colocataire de leur vie depuis belle lurette. Dans un monde qui prend des allures de course perpétuelle contre la montre, après le droit aux vacances, ne serait-il pas le temps de réhabiliter le droit à la fatigue? C'est ce qu'explique Irit Fiat dans « Ode à la fatigue », un livre qui ausculte avec minutie notre rapport trouble et tordu avec la lassitude. Le professeur d'éthique, qui a lui-même traversé quelques déserts côté énergie, affirme qu'on peut rester lumineux même en pleine panne de courant. À une époque où le burn-out est devenu presque aussi commun que l'influenza au mois de mars, rien n'est pourtant plus caché et occulté que la fatigue du travailleur, affirme-t-il. Pour des centaines d'infirmières épuisées qui osent descendre dans la rue pour protester contre leurs conditions de travail, combien de femmes et d'hommes, médecins, administrateurs, enseignants, gens d'affaires, artistes, travailleurs autonomes, à bout de souffle, continuent de boulonner comme des machines, dissimulant leur épuisement comme une maladie honteuse et même inavouable, comme une tâche sur un parcours professionnel immaculé. Notre époque vit un drôle de paradoxe, estime Fiat, et il n'est pas le seul. Le temps des vacances s'est démultiplié depuis les faméliques congés qu'égrenaient nos ancêtres vannés par de durs labeurs. Pourtant, jamais autant de contemporains ne se sont dit victimes d'épuisement et rarement la fatigue aura-t-elle eu si mauvaise presse. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui sans cesse fatigués. Or, ceux qui travaillaient à la terre devaient l'être bien plus que nous. Mais aujourd'hui, on tait la fatigue plutôt que de la vivre. L'aveu est perçu comme un signe de faiblesse. Au Canada, on travaillait en moyenne près de 40 heures par semaine en 1960. Et on ne bosse maintenant plus que 33 heures semaine depuis 2013. Rien à voir avec les 70 heures passées à s'éreinter au boulot lors de la révolution industrielle. Comment donc expliquer l'ampleur de la fatigue est ressenti aujourd'hui? Les fatigues choisies peuvent apporter beaucoup de joie, mais comme la solitude, la fatigue subie est beaucoup plus insupportable que celle qui est choisie. Contrairement aux êtres vivants, les humains cherchent un sens à ce qu'ils font, une légitimation. Or, Contrairement aux autres êtres vivants, les humains cherchent donc un sens à ce qu'ils font, une légitimation. Or, notre époque valorise la performance avant le sens et par conséquent, les êtres qui travaillent sans cesse sont d'avis que cette fuite en avant fait de plus en plus de victimes collatérales. Curieusement, la version de notre temps pour la fatigue est égale à celle que cultive notre société à l'égard de l'ennui. Pour être aujourd'hui, il faut faire sans cesse plus. En fait, bien des gens préfèrent la fatigue à l'ennui, car on fuit le néant. Pour eux, mieux vaut être fatigué à faire quelque chose que de l'être à ne rien faire. Et le travail devient le parfait exutoire du vide. La lexique de la fatigue en dit long sur l'image que suscite cet état de veille. On se dit claqué, crevé, lessivé, vidé, siphonné, comme si l'état physique oblitérait toutes les facultés humaines. La langue compare l'être humain à la machine dont la garantie fait défaut, puisqu'on est au bout du rouleau, victime d'un coup de pompe, d'un passage à vide. La fatigue nous tombe dessus comme une malédiction, puis on est mort de fatigue. Bref, autant dire, plus rien du tout, annihilé. On ne se considère pas la fatigue comme une chose normale ou bonne. Puis, la fatigue est tournée en dérision. Du schtroumpf dormeur à Gaston Lagaffe, la culture des pinceux qui rechargent leur batterie comme des drôles de zig ou des paumés de première. Pour Fiat, il est temps de redonner ses galons à la fatigue. Notre époque rejette cet état qui peut être très fécond. Quelle serait la réflexion d'une femme ou d'un homme qui ne serait jamais fatigué, jamais vieux? Celui d'un état flottant où l'on n'est plus le centre du monde, où on s'attarde aux détails, aux nuances, on devient l'océanographe des flaques. Car la fatigue est la mère de la rêverie, plongée dans la sphère de l'oubli de soi, ce tremplin vers l'inconscient. La fatigue mène à cet état intermédiaire où l'on devient pensif plus que pensant, où l'on s'enchante des détails du microcosme plutôt que de l'évidence. La fatigue a à nous apprendre. Elle est comme le vent qui déracine. Ça ne sert à rien de lutter contre. Le roseau survit car il plie, le chêne lui résiste, mais se rompt. Quantité de régimes et de traitements anti-fatigue déferlent sur les tablettes. Vitamine C, ginseng, pollen, gelée royale, tout pour éviter une baisse de régime. Avec tout ça, on atténue les symptômes, mais pas la cause. En fait, la plus grande fatigue de notre siècle vient souvent du fait d'être soi. Un vaste programme en cours. Si tant de gens déclarent forfait de nos jours, c'est davantage en raison du tabou qui flotte sur la fatigue. L'épuisement professionnel, c'est la fatigue qui n'a pas su se dire par ceux qui sont déjà au bout du rouleau. Il est temps d'oser dire, de créer une solidarité de la fatigue et une résistance à l'accélération du travail. Laetitien rappelle combien la fatigue peut être savoureuse quand elle est synonyme de conquête. À preuve, le sourire de ceux qui s'infligent des heures d'entraînement pour courir un demi-marathon ou des nuits blanches pour achever un manuscrit, donnant au mot fatigue le sens du dépassement ou du devoir accompli. Les bonnes fatigues se reconnaissent à ce que l'effort n'est plus vu comme quelque chose qui nous coûte, mais au contraire comme quelque chose qui nous rapporte. Comme quoi, à se dépenser, on peut aussi s'enrichir et à se reposer, se remplir. C'était un très beau texte, pardon, de Isabelle Paré, paru dans Le Devoir le 6 juillet 2018. Francine Forget, vous nous amenez où maintenant?
L'intelligence artificielle.
Oh wow!
L'industrie de la promesse, selon deux doctorantes en communication à l'UQAM, Joëlle Gélina et Myriam Moore, qui ont fait paraître dans la section Idées du devoir le 16 juillet 2018 une opinion. Depuis les trois dernières années, la présence de l'expression intelligence artificielle, IA maintenant, a pris tellement d'ampleur dans les médias qu'il n'est pas surprenant que certains chercheurs et intellectuels aient voulu tempérer les enthousiastes en soulignant les enjeux qui prévalent à son développement. Parmi ces derniers, une grande question. Est-ce que les machines pourraient devenir aussi intelligentes que nous? Malgré la légitimité d'une question qui porte des conséquences somme toute effrayantes, les arguments utilisés paraissent éculés au regard d'un débat qui trouve ses débuts dans les années 1980. À poser encore et encore la même question, à mettre un point d'honneur à comparer l'intelligence humaine et celle des machines, n'y a-t-il pas d'autres aspects qui sont passés sous silence? À l'heure actuelle, l'IA est un secteur où se déploient des problèmes politiques et économiques concrets qui risquent d'affecter la société québécoise avant que ses promesses techniques se réalisent.
Au moment où la Ville de Montréal, la province de Québec et le gouvernement canadien investissent fièrement des milliards de dollars dans le développement de l'IA, pourquoi ne pas en profiter pour reformuler les enjeux et nous demander si nous démontrons de l'intelligence en tant que société en y investissant autant de ressources publiques? D'emblée, la recherche en intelligence artificielle bénéficie d'un privilège en ce qui concerne l'octroi des subventions. En 2016, le Centre d'expertise montréalais IVADO a obtenu à lui seul un montant de 93,6 millions de la part du nouveau fonds Apogée Canada, une subvention record et inhabituelle pour la recherche universitaire. Cela dit, c'est surtout la multiplication des aides financières publiques accordées aux entreprises privées du domaine qui a de quoi faire réagir. D'abord, il y a une prolifération d'instances créées pour soutenir et accélérer le développement des entreprises technologiques en démarrage, les fameuses start-ups. Ces organisations qu'on appelle accélérateurs ou incubateurs, dont font partie Innocité Montréal, La Piscine, la Maison Notman et Scale AI, veulent profiter de leur statut d'OBNL pour obtenir de généreuses aides financières gouvernementales. Mentionnons aussi les innombrables incitatifs fiscaux offerts aux entreprises québécoises et étrangères désireuses de développer une expertise en IA. Parmi ceux-ci, on retrouve un congé fiscal pour les experts étrangers, le soutien à la recherche et au développement des aides financières pour l'acquisition de nouvelles technologies au sein des entreprises ou pour la création de nouveaux postes, comme celui d'analyse de données, et encore un congé fiscal pour les grands projets d'investissement. Cela inclut un congé pour la cotisation des employeurs au Fonds des services de santé pour les travailleurs. Pourtant, l'un des enjeux primordiaux, nous dit-on, concerne la redistribution des richesses qu'elle va créer. On pouvait déjà entretenir des doutes considérant la longueur d'avance que possèdent les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui financent la recherche et sous-traitent les petites entreprises, même à Montréal. Aujourd'hui, il ne reste plus de doute. Si ces entreprises sont minimalement des richesses du privé, comment est-ce possible que toutes et tous bénéficient d'une quelconque retombée économique? La vieille rhétorique de la création d'emplois ne peut même pas être mobilisée puisque l'IA menace d'en détruire autant. Mais alors, comment justifier qu'on prenne à ce point ces entreprises par la main pour s'assurer de leur succès, symbolique comme financier? Comme si tout cet investissement public n'était pas suffisant, les administrations publiques se proposent en plus d'être les premiers clients des solutions d'intelligence artificielle les plus avant-gardistes. Les risques s'amenuisent pour les start-ups en IA. L'agent public les finance et les administrations publiques achètent leurs produits. Cet appui est si fort à Montréal qu'on peut lire dans un rapport de la Grappe industrielle Techno-Montréal qu'une start-up comme Really Active peut survivre 3 ans sans que personne comprenne ses produits et sans que cela nuise à la poursuite de ses activités. Et il faudrait s'en féliciter parce que ça fait de nous des leaders en IA comparables à la Silicon Valley. Même les grandes expertises mondiales, comme McKinsey, ne parviennent pas à chiffrer les retombées sociales et économiques éventuelles. D'autant plus qu'un simple changement de perception à son égard peut la faire tomber. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, lors du AI Winter, après 8 ans de boom économique entre 1980 et 1988, la réalité a rattrapé les promesses de l'industrie de l'IA qui s'est écroulée. Alors sommes-nous intelligents d'investir autant dans l'IA ou sommes-nous en train de créer une bulle économique au nom de l'intelligence dans laquelle nous projetons nos utopies sociales les plus folles? Alors c'est le point de vue de Joël Gélina et Myriam Moore, doctorante en communication à l'UQAM, Le Devoir, section ID, du 16 juillet 2018.
Alors voilà, nous poursuivons nos lectures et nos trouvailles avec Catherine Emmanuel.
Je vous parle d'un procureur pour les animaux. C'est dans la section « L'idée à voler » de Nouveaux projets, la dernière revue Nouveaux projets, dernière édition. Et c'est un article de Judith Olivier. « Et si la faune du Québec avait un représentant légal, chargé comme en Suisse de défendre ses intérêts dans les procédures pénales. Les Suisses sont particulièrement exigeants en matière de protection des animaux. Impossible, par exemple, d'acheter un hamster sans lui offrir un compagnon de cage, d'adopter un caniche sans veiller à son bien-être et à sa dignité. Pour assurer le respect de ses droits, des citoyens du canton de Zurich se sont mobilisés en 1992 pour que soit créé un poste de procureur spécialisé. Son rôle, représenter les intérêts des animaux d'élevage et de compagnie dans le cadre des plaintes pour cruauté, exploitation ou négligence et punir toute violation de la loi. Bien qu'il ait fait ses preuves, les Suisses se sont opposés par référendum à la systématisation de ce poste à l'échelle nationale en 2010. Le canton de Saint-Gall est le seul à l'avoir adopté. Malgré tout, le nombre d'interventions juridiques pour maltraitance a été multiplié par 6 à l'échelle du pays entre 2006 et 2016. L'idée devrait inspirer le Québec, qui occupe la 8e position du classement national pour la protection des espèces sauvages et domestiques. Nous ne sommes pas très bons par rapport aux autres provinces. Certaines rendent obligatoire l'observation des codes de pratique établis par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. D'autres ont prévu des règlements spéciaux pour les populations exotiques des zoos, animaleries et cirques, ou permettent de procéder à des accusations criminelles ou pénales. Explique le maître Alana Devine, juriste à la SPCA. Au niveau international, le Canada est lamentable, surtout en ce qui concerne les animaux de ferme. Aucune loi fédérale ne fixe de normes minimales de soins pour l'élevage et la légalisation sur les transports est l'une des plus mauvaises au monde. Affecter un procureur aux affaires de cruauté au niveau provincial serait une idée excellente, mais l'application de la loi pourrait rester problématique. Au Québec, les animaux ne sont pas représentés. C'est le personnel d'inspection du ministère de l'Agriculture, la MAPAC, qui s'occupe de recevoir et de traiter les plaintes relatives aux animaux d'élevage, mais les accusations sont rarement traduites en justice. Les inspecteurs jouent de moyens limités. Des recommandations, des amendes allant de 600 $ à 36 000 $ pour les infractions et de 2 000 $ à 75 000 $ en cas de mauvais traitement. En dernier recours, ils peuvent saisir le bétail et transmettre un rapport au ministère de la Justice qui détermine alors si une poursuite doit être engagée. Dans tous les cas, les animaux ont tendance à être traités comme des biens, même si le projet de loi 54 voté à l'unanimité en 2015 se redéfinit le statut en tant qu'être doué de sensibilité et ne concerne pas les activités d'agriculture, d'enseignement ou de recherche scientifique. Même en admettant que le MAPAC reste le principal organisme d'application de la loi provinciale, la mise en place d'un procureur des animaux présenterait d'indéniables avantages, comme celui de s'occuper des animaux domestiques, qui relèvent du droit fédéral et non du droit provincial. Le code criminel interdit d'infliger des souffrances inutiles et pénalise la négligence. Mais il faut encore prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a agi volontairement. Les condamnations sont très très rares, explique la philosophe Christiane Bailey. Un avocat dédié à ses victimes diminuerait considérablement les délais judiciaires en allégeant les procureurs de dossiers qui stagnent en bas de leur pile. Ils sont débordés, souligne Maître Devine. Et même s'ils ne l'étaient pas, ils ont rarement l'expertise requise pour ces dossiers compliqués. Bien souvent, ils n'en voient tout simplement pas l'intérêt. Au-delà du système judiciaire, il faudrait aussi que les citoyens, comme en Suisse, soient plus vigilants et signalent plus vite les situations de maltraitance. Gandhi ne disait pas qu'on mesure la grandeur d'une nation à la façon dont les animaux sont traités. C'est un article de Judith Olivier, qui est la rédactrice en chef adjointe de Nouveaux Projets.
Alors, nous sommes de retour et nous avons parlé des améliorations des conditions de vie, protéger les animaux qui nous entourent. Moi, de mon côté, j'ai trouvé un article dans Le Devoir qui est écrit par Dr Guy Morissette, et c'est pour les conditions de vie de nos aînés. Monsieur Guy Morissette est médecin actif dans le milieu des soins aux personnes âgées, des résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes et des CHSLD. C'est l'ancien PDG de l'Agence de santé et directeur des services professionnels. Voici donc sa réflexion. Le débat provoqué par le dépôt de l'action collective par le Conseil pour la protection des malades contre le gouvernement du Québec est bien engagé. Il me laisse perplexe à plusieurs égards, étant donné que les CHSLD au Québec sont depuis belle lurette une cible privilégiée de promesses et de commentaires de la part de nos politiciens et de différentes organisations de défense de droits ou d'observateurs dits intéressés par le domaine. Il constitue en fait un terrain de jeu idéal en période préélectorale. Cependant, il est bien possible ici qu'on ne puisse se déclarer de gagnant à la fin. L'issue de ce débat risque de passer à côté de l'objectif qu'au fond, on souhaite tous atteindre, soit améliorer les conditions de vie de nos aînés, qui ont largement contribué à créer la société dans laquelle nous vivons actuellement. Mais ne nous méprenons pas, il n'est pas question d'affirmer que tout l'environnement de ces centres est idéal et qu'il ne doit pas faire l'objet d'une attention renouvelée ou d'investissements judicieux pour les rendre plus humains, plus attrayants, plus respectueux. Il manque de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de nutritionnistes, de techniciens loisirs, d'infirmières et de bien d'autres soignants. Peut-être pas un grand nombre, mais un minimum selon chacun des établissements. Rappelons-nous qu'il s'agit effectivement de milieux de vie, oui, mais de milieux de vie substituts et que les personnes qui y vivent ont des besoins bien différents de celles qui vivent à domicile ou en résidence pour personnes autonomes. Ainsi, on peut s'attendre à ce que les CHSLD soient une copie conforme des milieux de vie naturels, car justement, les besoins des résidents sont bien différents. L'action collective déposée pourrait, bien, finalement, bénéficier plus à ceux qui l'ont concoctée depuis des mois qu'aux personnes concernées elles-mêmes. En fait, les coûts élevés déjà engendrés pour préparer cette action et ceux qu'elle va entraîner pour la présenter et la défendre ou la bloquer seront déduits des sommes qui pourraient éventuellement être accordées aux familles des plaignants, dont une grande part sont des aînés qui ont déjà quitté ce monde. Alors, pourquoi attribuer cet argent, ces quelques centaines de millions de dollars? On pourrait donc l'attribuer aux avocats ou aux personnes qui ont vécu au cours des dernières années en CHSLD, pardon, ou à leurs représentants. Ne serait-il pas plus profitable d'investir dans l'avenir, dans différentes mesures qui auraient pour objectif d'améliorer le sort de ceux qui y vivent ou qui vivront dans le futur? Les 22 exemples de mauvais services cités par le Conseil de protection des malades sont bien réels, il n'y a aucun doute là-dessus. Certains méritent d'être qualifiés, bien sûr, et on ne peut dire qu'ils n'existent pas dans tous les CLSC du Québec. Convenons qu'à la base, les services déjà dispensés sont de qualité, mais on considère le contexte dans lequel ils sont donnés. Cela est confirmé par plusieurs. Cependant, ils peuvent servir de point de départ à un engagement du gouvernement à améliorer les choses, du fait que plusieurs instances, tant gouvernementales que paragouvernementales, les associations professionnelles et la population elle-même sont interpellées. Il est donc nécessaire de constituer un regroupement politiquement indépendant, rattaché par exemple au protecteur du citoyen ou au commissaire à la santé récemment réhabilité. Encore faut-il que le gouvernement soit disposé à investir ces sommes dans les mesures retenues, sommes qu'il devra sans doute de toute évidence dépenser de toute manière d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois. Je suis d'ailleurs convaincu que fondamentalement les personnes visées par un éventuel dédommagement préféreraient que ces sommes soient consacrées à améliorer le milieu actuel de vie des personnes en CHSLD qui y sont appelées à y vivre dans le futur. Pour cela, il faut que l'engagement du gouvernement soit clair afin de contrecarrer les allégations faites depuis plusieurs jours par plusieurs observateurs. Nous sommes dans la période idéale pour analyser ce que nos aspirants représentants à l'Assemblée nationale sont prêts à faire à cet égard pour changer les choses. Enfin, je ne peux m'empêcher de souligner que la population a aussi un rôle important à jouer pour améliorer la situation, et cela doit commencer par visiter régulièrement nos aînés dans les CHSLD. Je suis bien placé pour le constater que, trop souvent, ceux-ci sont délaissés, voire abandonnés dans ce milieu de vie substitut, laissés à eux-mêmes et au personnel qui, pour la plupart, se donnent à 110%. C'est une responsabilité collective souvent négligée. C'était un texte de Guy Morissette, médecin, dans les CHSLD, paru dans Le Devoir le 12 juillet. Alors voilà, c'est tout. Déjà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je tiens à remercier mes collaboratrices. Merci Catherine Emmanuel.
Merci Hélène.
Merci Francine.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous deux le vendredi matin.
Merci, c'est très gentil. Merci Maurice, toujours aussi attentif et présent avec nous à la régie. Alors voilà, nous vous donnons rendez-vous donc vendredi prochain à la même heure et à la même adresse, si on peut dire. Et au plaisir de vous faire la lecture une nouvelle fois vendredi prochain. Bonne semaine.
Bon week-end.